Chapitre 14. 31 octobre 2010.
Sa maîtresse n'avait pas souffert. Pas eu le temps de dire ouf. Pour éviter les effusions de sang, il lui avait asséné un coup mortel derrière la tête, juste après la daube. Il avait attendu qu'elle débarrasse la cuisine, que la crédence et l'évier soient propres. Un intérieur impeccable n'est jamais suspect, même au luminol. Un seul coup bien visé avec la batte de baseball que Mathilde gardait en souvenir de son voyage en Amérique lorsqu'elle était adolescente. Elle s'était amourachée d'un joueur, un certain Tim Hathaway, qui lui avait offert la batte, signée au feutre noir. Quand ce souvenir lui revenait, elle avait les larmes aux yeux. Mais la batte avait tout de même fini sur une étagère au sous-sol, à côté des pots de confiture. Il avait traîné le corps jusqu'au congélateur au sous-sol. Mathilde était lourde. Elle avait choisi un modèle coffre chez Darty, de ceux qui s'ouvrent par-dessus, pratique. Il l'avait soulevé et déposé sur les boîtes d'esquimaux et les barquettes de surgelé, puis avait rabattu le couvercle. Blanche était proche, à portée de main. Il reviendrait à Valence dans 2 jours pour vider la maison, avant que quelqu'un s'aperçoive de la disparition de Mathilde. Ce qui était pratique avec elle, c'est qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Mariée une fois, divorcée de longue date. Il était arrivé à Guignon en fin d'après-midi. Il faisait presque nuit. Il s'était garé devant les grilles du cimetière. Elles étaient fermées. Il avait sauté par-dessus. Des restes de souplesse du cirque, un corps d'athlète, des exercices qu'il accomplissait quotidiennement. Il avait sillonné pendant plusieurs heures les allées, une torche à la main. La lumière commençait à faiblir à cause des piles. Au moment où il s'était dit « je reviendrai demain », il l'avait vue, la tombe de Colette Septembre. Et il avait aussitôt compris. C'était sans doute Blanche qui était là-dessous. L'article qu'il avait lu disait vrai. Toutes les lames de couteau tatouées sur sa peau s'étaient soudain enfoncées dans sa chair. Il avait dû s'asseoir par terre. Elle était morte. Sinon, qui aurait posé cette paire de chaussures en guise de plaque sur la stèle? C'était celle de sa fille, celle qu'elle portait tout le temps à l'époque où elle s'était volatilisée. Ou alors, c'était un piège pour le leurrer. Mais lui-même n'y croyait pas. Il reviendrait le lendemain, exhumer le corps. Il fallait qu'il la touche une dernière fois. Même morte, même décomposée, il fallait qu'il la tue de ses propres mains. Il s'était fait cette promesse depuis qu'elle l'avait dénoncée aux flics. Il était remonté dans la Twingo, s'était arrêté sur la place de l'église pour emporter une pizza. Près d'un entrepôt désaffecté, il l'avait mangé dans sa voiture, et s'était assoupie, vidée. Elle était morte. Le lendemain matin, il avait acheté dans une grande surface un palan manuel pour déplacer la pierre tombale et 2-3 trucs à grignoter. Puis il était retourné au cimetière. Il savait qu'il ne pourrait rien faire en plein jour, mais il voulait revoir les chaussures. Et là, il s'était pris un mur. Le cimetière était rempli de monde. Putain de Toussaint. Et 2 flics étaient postés devant les grilles. Quelqu'un l'avait-il aperçu la veille? Il s'était barré Fissa, en jurant, puis s'était garé place de l'église. Il devait réfléchir. C'était bien sa veine, débarquée pile le week-end de la Toussaint. Il avait relevé la tête. Une envie de frapper. N'importe qui. Au hasard, pour se défouler. La vieillesse n'avait en rien calmé ses pulsions. Des gens étaient sortis de l'église, de la messe. Il les avait regardés sans les voir, pensant à ce qu'ils devaient faire. C'est là qu'elle était apparue, à quelques mètres. Elle entrait dans le bar face à l'église, accompagnée. Mais il n'avait regardé qu'elle, dans son manteau noir, avec ses cheveux attachés à la va-vite. Son visage, son regard. Elle avait fait un geste de la main comme pour chasser quelque chose devant ses yeux, une poussière ou une idée peut-être. Sensation inconnue. Chaleur et lumière s'étaient plantées en lui comme des flèches tirées à bout portant. Une explosion intérieure, comme il n'en avait jamais ressenti. Soutkovski savait qu'il avait un cœur de pierre. Il n'avait jamais aimé personne, à commencer par lui-même. Dénué d'empathie, il vivait dans l'ombre, dans l'obscurité de son âme. Il n'avait pas souvenir d'avoir pleuré depuis la mort de sa mère. À quoi bon pleurer quand votre mère n'essuie pas vos larmes? Aucun souvenir d'avoir ri à gorge déployée. Le bonheur lui était étranger, la joie un mystère qui jamais n'avait croisé son chemin. Il avait éprouvé du plaisir, parfois, en éjaculant. La veille, en ayant la quasi-certitude de la mort de sa fille, il n'avait éprouvé que de l'amertume et le regret de ne pas l'avoir arraché à la vie lui-même, parce qu'elle l'avait quitté, abandonné pour le jeter en pâture. Tout ça pour mourir jeune. Il l'avait renié dans sa chair et nourri une haine sans limite à son encontre. Mais quand il avait aperçu cette femme sur le trottoir d'en face, quelque chose d'inconnu l'avait saisi, fendu son armure. Tout était remonté à la surface, comme une bouche d'égout qui refoule. Les mains crispées sur le volant, il avait attendu qu'elle réapparaisse. Même sensation quand elle était ressortie du troquet, comme si sa peau fondait. De la cire au contact d'une flamme. Elle était montée dans une vieille voiture, absorbée par ses pensées. Il l'avait suivie 5 minutes, en gardant ses distances. Elle s'est égarée dans une rue pavillonnaire. Une demi-heure plus tard, un sac de voyage à l'épaule, elle s'était postée sur le trottoir. Puis, un type était venu la chercher, s'arrêtant à sa hauteur. Elle avait subitement fait demi-tour, était retournée à l'intérieur. Il avait pensé « Elle ne part plus ». Mais elle était ressortie, une vieille valise à la main. Il avait décidé d'attendre la nuit. Il avait cogité, ruminé, comme d'autres lisent, regardent la télévision, se promènent, écoutent de la musique lorsqu'ils ont du temps libre. Qui était cette femme? Comment s'appelait-elle? Il avait compris pourquoi elle lui faisait cet effet, mais pas comment il pouvait ressentir ça. Soutkovski ne portait pas d'armure. Il était une armure. Or, il avait eu envie de pleurer en la voyant disparaître au bout de la rue. Inconcevable, surtout pour un homme comme lui. Il aurait bientôt la réponse. À 20h, plus âmes qui vivent dans la rue. La plupart des volets étaient clos. Il avait pénétré dans le jardin, balancé quelques cailloux sur les vitres pour s'assurer que personne ne réagissait à l'intérieur. La femme n'avait pas verrouillé la porte d'entrée, alors qu'il s'apprêtait à forcer la serrure. Il s'était introduit dans la maison, sa lampe de poche à la main. Il avait fait le tour des pièces. Pas de courrier au nom des propriétaires. Il avait respiré les vêtements dans la penderie de l'unique chambre. À part un manteau vert et noir, que des habits de vieux. Il avait été surpris de découvrir un matelas gonflable au milieu du salon, des couvertures jetées dessus, quelques affaires éparpillées par terre. 2 pantalons, un pullover. Un scénario d'Agnès Septembre, Anna Ruben, annoté. Elle avait barré Duguin. Pourquoi? Agnès Duguin. L'article de Nathalie Grandjean évoquait cette femme, la nièce de Colette Septembre, la fille du pianiste qui faisait des films, c'était elle. Il devait se trouver dans la planque de Colette Septembre. Il recollait les morceaux, mentalement. D'où ce France Football et ses cahiers remplis d'articles. Alors il avait refait le tour des pièces, fouillant scrupuleusement, mais aucune trace de Blanche. C'est là qu'il était tombé sur une boîte de photos. La femme cinéaste à tous les âges. Il n'avait jamais mis les pieds dans un cinéma. Quand se serait-il assis face à un écran pour découvrir la vie fictionnelle d'un personnage? Le cinéma était le principal concurrent du cirque. Alors que les salles s'agrandissaient, les cirques s'étriquaient, les chapiteaux s'appauvrissaient, disparaissaient. Ils allaient même jusqu'à inventer des cirques sans animaux, sous prétexte qu'ils étaient malheureux, n'importe quoi. Les bêtes étaient au service des hommes. Pourquoi s'était-elle installée ici, chez sa tante? Que savait-elle de Blanche? Où était-elle partie? Pourquoi n'avait-elle pas fermé la porte à clé? Quelqu'un allait-il débarquer? Il s'était agenouillé sur le matelas et avait respiré la tête d'oreiller. Et la sensation était revenue, plus violemment encore, plus forte. Un parfum familier, l'odeur d'un souvenir exhumé. Comment était-ce possible? Ses émotions s'étaient consumées dans l'incendie de ses 4 ans. Longtemps, il était resté dans la maison à scruter les photos, à inspecter les tiroirs, l'armoire, les collections, les placards, la poubelle, qui contenait une bouteille de whisky vide. Agnès avait-elle un homme dans sa vie? Il fallait qu'il la revoie, qu'il entende le son de sa voix. Il ferait des recherches sur Internet plus tard. Si elle réalisait des films, il trouverait des images d'elle. Avant de partir, il s'était téléphoné pour enregistrer le numéro fixe. Puis il avait noué une écharpe appartenant à Agnès autour de son cou. Jamais il n'avait fait pareil geste au cours de son existence. Un geste qui l'avait immédiatement déstabilisé. Il n'avait pu se résoudre à abandonner la boîte de photos. Il avait aussitôt quitté la ville pour rentrer à Valence. Il reviendrait dans quelques jours pour exhumer le corps de Blanche et comprendre qui était vraiment cette Agnès Duguin et d'où elle venait. Après avoir débarrassé la maison, avant que le corps de Mathilde soit retrouvé dans le congélateur,